Nous sommes un groupe de femmes et ce groupe de femmes, eh bien, ce sont des femmes de la République dominicaine et c'est Xiomara Fortuna qui chante avec elle dans un disque qui a été entre autres produit grâce à l'association Mood et cette association qui travaille avec les femmes en République dominicaine. Dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis, on évoque les femmes et aujourd'hui c'est Planète Femmes, des nouvelles des femmes dans le monde. Et tout de suite, eh bien, nous partons en Bulgarie. Pour nous, Bulgares, les pommes de terre sont devenues un vrai luxe. C'est une infirmière de Sofia qui nous dit cela, qui est incapable de nourrir décemment ses enfants. Mais son désespoir est aussi celui de tous les Bulgares. Et la rue demande des comptes aux ex-communistes, mais quid des solutions? C'est Véronique Pasquier qui est allée comme envoyée spéciale en Bulgarie et qui a rencontré justement cette infirmière de Sofia, Iliana Grigorova, infirmière. Le petit Todor veut être policier, Nikolai, son frère de 15 ans, mécanicien. Iliana Grigorova, infirmière dans une permanence de Sofia, souhaite, elle, une seule chose, que ses enfants, graves et pâles, ne deviennent pas des criminels. Ma profession me permet de travailler à l'étranger. S'il était possible de les emmener, je ne resterais pas une seconde de plus ici, avoue la quadragénaire aux longs cheveux noirs, en retenant ses larmes. Avec un horaire complet et un deux pièces en périphérie, Iliana, qui élève ses fils sans l'aide de leur père, n'a participé qu'une fois aux manifestations organisées depuis 15 jours dans la capitale bulgare contre la faillite économique du régime socialiste, ex-communiste. Son désespoir vaut pourtant celui des retraités faméliques formant le gros d'un défilé las et pauvrement vêtus, fut-il parsemé de fourrures ou précédé de pop majestueux. Iliana a 20 ans d'expérience et gagne plus que ses jeunes collègues. Elle gagne 9800 leva, auxquelles s'ajoutent les allocations familiales qui s'élèvent à 1000 leva. Au total, à peine plus de 20 francs suisses, puisque le cours de la monnaie en chute libre a passé durant un an de 70 à 700 pour un dollar. L'ordinaire à la maison, c'est une miche de pain qui coûte 250 leva, 50 centimes, et le kilo de pommes de terre, 350, Léva. Avec une hyperinflation annuelle déjà supérieure à 300%, les prix s'envolent. Celui des tubercules a augmenté de 77% depuis le nouvel an, nous dit Iliana. Jusqu'ici, nous en mangions sous forme de frites ou de soupe, mais cela devient un luxe. Alors, nous consommons surtout du riz, nous raconte, nous confie l'infirmière. Selon l'usage, Iliana a mis des choux et des poivrons en conserve durant l'été. Mais nous les gardons pour les grandes occasions, dit-elle, comme le fromage, le poulet, une fois par mois, ou les pommes, le jour de la paye. Mes fils manquent de vitamines, mais comment acheter du citron ? Soupire Iliana, qui a déjà renoncé au beurre et aux œufs. À l'instar de beaucoup d'habitants de Sofia, les Sofiotes, la mère de famille règle la facture mensuelle d'eau et d'électricité qui s'élève à 2000 leva, mais entasse celle du chauffage, cela lui coûterait 4000 leva. L'immeuble, par chance, reste tempéré. Si elle habille les siens de vêtements usagés et montre en riant, plutôt que de se suicider, le sparadrap qui répare les savates de Nikolaï, l'infirmière ne transige pas sur deux dépenses, le matériel scolaire et les chaussures neuves, souvent importées et hors de prix. Pour faire face à notre situation, nous mangeons l'appartement, explique-t-elle. Propriétaire comme la majorité des Bulgares, Iliana a vendu un logement spacieux pour se replier sur les deux pièces de la cité dortoir. La différence, retirée successivement de deux institutions aujourd'hui en faillite, a échappé de justesse à l'effondrement du système bancaire, mais son pactole, entre guillemets, se réduit à quelques 200 francs. Aussi, Iliana, infirmière, souffre elle aussi d'une maladie, qui est une maladie artérielle, et elle imite ainsi ses patients. Elle renonce aux médicaments. L'autre jour, dit-elle, je suis allée faire une injection d'antibiotiques chez une retraitée. J'ai choisi l'ampoule la meilleure marché, qui coûte 30 leva. Mais elle m'a montré son frigo vide, le quignon de pain qui lui restait, et elle m'a renvoyé, raconte Iliana. Les hôpitaux sont aux abois. Ils ne soignent que les cas graves. Les malades doivent amener leur vivre eux-mêmes et financer le traitement. Les communistes insistent sur la politique sociale, mais des gens meurent faute de soins, constate Iliana. Ils ont pillé l'économie, ruiné le pays. Même si l'opposition arrive au pouvoir, il n'y aura pas d'amélioration avant plusieurs années. Pour moi, je n'ai plus d'espoir. C'est pourquoi je dis que les jeunes, eux, au moins, survivent. Sur la photo, Iliana, pourtant, montre un visage solide, souriant, s'accrochant à l'épaule de ses deux fils qui sont autour d'elle, tout souriant, confiant dans leur mère. Cool. C'est Martha Sebenstein dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et la planète femme, eh bien, a son prolongement aujourd'hui dans Remue Ménage en Irak. C'était l'article que nous évoquions tout à l'heure en compagnie d'Ariane Azler qui évoquait l'Irak. Et puis nous allons évoquer maintenant son voisin, l'Iran. Il n'y a qu'un seul mot pour décrire la politique du gouvernement iranien à l'égard des femmes, apartheid. Alors que le principe de section réservée aux femmes seules existait déjà dans les autobus, il a été étendu depuis le mois de janvier 1995 déjà à des wagons entiers dans les trains. À Téhéran, la capitale, certains bancs publics affichent la mention « femmes seulement », non pas comme une prérogative bien intentionnée bien évidemment, mais comme une obligation d'utilisation faite à celles qui se déplacent seules et qui ont l'audace de vouloir se reposer. Au mois de mai, une centaine de commerces ont été fermés par la police pour avoir violé les prétendues règles islamiques de la moralité. Parmi ceux-ci, des entreprises de taxi qui permettaient aux passagères d'être assises sur le siège avant, à côté du chauffeur. L'un des concepts les plus choquants est celui du sigé, ou mariage temporaire. Nous en avons souvent parlé dans Remue Ménage. C'est le fait que seul l'époux a le droit d'initier, comme premier droit, l'époux a le droit d'initier un divorce, eh bien une femme peut être considérée comme une commodité que les hommes achètent ou louent à bien plaire. Et l'article 1075 du Code civil iranien stipule que le contrat ne peut durer qu'une heure sans engager par ailleurs l'homme à de quelconques dédommagements. Alors si cette particularité juridique permet parfois de contourner l'interdiction des contacts entre les hommes et les femmes non liés par un lien conjugal fixe, eh bien elle est surtout et avant tout le moyen de légitimer la prostitution forcée. Ainsi par exemple dans le Kurdistan iranien, des gardes iraniens ont exigé d'épouser temporairement les veuves du village de Bitso par exemple pour satisfaire leurs pulsions sexuelles. Et bien sûr, tout cela avec la bénédiction du gouvernement. Or, les peuples du Kurdistan sont des musulmans sunnites et de tels mariages sont inacceptables à leurs yeux. Le code d'habillement des femmes est une constante que l'on retrouve dans tous les pays islamistes, mais en Iran, il est cependant prescrit de façon particulièrement contraignante, vous en avez sûrement déjà entendu parler, interdisant notamment le maquillage et quelle que soit la religion des coupables. Les coupables, précisons bien. Les femmes qui apparaissent en public sans porter le voile religieux, donc le tchador, seront condamnées à recevoir jusqu'à 74 coups de fouet, spécifie l'article 102 du Code pénal. Et en outre, depuis l'imposition de ce même tchador en 1979, plus de 100 000 femmes ont perdu leur emploi pour s'être opposées à la nouvelle loi. Raconte un rapport. Au mois de février 1996, une fille âgée d'une quinzaine d'années s'est fait violemment frapper par les forces de sécurité pour avoir laissé un bouton défait à son manteau. Et la pratique la plus révoltante demeure, bien sûr, la lapidation. À remarquer que ce jet de pierre meurtrier s'applique aux femmes accusées d'adultère, alors que les hommes sont punis au fouet pour la même faute. Depuis novembre 1994, une femme âgée de 32 ans a été ainsi exécutée à Sari et d'autres lapidations ont eu lieu à Ramoros à l'instigation d'une cour de justice, donc divers villages d'Iran. En juin dernier, Deux femmes inculpées d'adultère ont été condamnées à mort par le tribunal d'un village. La peine de l'une des deux a été commuée en coups de fouet. Quant à la seconde, il semble que son appel soit toujours pendant de l'avant la Cour suprême. Il est cependant très difficile d'avoir des contacts avec l'Iran, nous informe le réseau des femmes vivant sous loi musulmane qui a son siège à Montpellier en France et que nous connaissons bien dans Onde Femmes. Alors, toutes ces discriminations à l'égard des femmes découlent de la conception globale des mollahs qui les cantonnent exclusivement dans le rôle de bonnes mères et de bonnes épouses. Leur marge de liberté dépend donc du degré auquel leurs activités interfèrent avec leurs responsabilités familiales et cette évaluation revient de droit à leur époux. Cette conception n'est pas inhérente à l'islam, mais à la seule interprétation qu'en fait le régime de Téhéran. Et à l'inverse, le Conseil national de la résistance iranienne, sans que certaines de ses composantes ne renient pour autant leur attachement à l'islam, eh bien ce Conseil national de la résistance iranienne a édicté un texte en 13 points, qui garantissent explicitement toutes les libertés fondamentales de la femme, consacrant la stricte égalité entre les deux sexes, la polygamie s'y trouvant notamment condamnée. Alors face à ce pouvoir des mollahs, eh bien aujourd'hui, des femmes iraniennes luttent contre le clergé. Islamistes et laïcs s'unissent pour la première fois dans leurs revendications contre le pouvoir religieux. On constate en Iran que le fossé ne cesse de se creuser entre la société civile et l'État, issu de la fameuse révolution islamique. Et dans ce constat, eh bien, les femmes se retrouvent en première ligne pour réclamer une suppression du poids de cette pensée religieuse et surtout la reconnaissance de leurs droits. Le débat que les citoyennes de toutes conditions en Iran suivent avec le plus vif intérêt, par exemple, dans les pages des magazines féminins à grand tirage, eh bien ce débat oppose d'un côté des intellectuels, islamistes et laïcs, pour la première fois unis pourtant, face aux conservateurs, défenseurs d'une conception obscurantiste et rétrograde de l'islam. Alors, évoquons certaines de ces femmes qui se battent aujourd'hui contre ce pouvoir religieux. Et il se trouve des femmes qui ont une place assez étonnante, jugez-en vous-même. Dans son bureau de présidente du Conseil de la solidarité du sport féminin des pays musulmans, dans un quartier aisé du nord de Téhéran, on trouve Madame Faezeh Rafsanjani, en jeans bleus, en chador noir. Et elle proteste. Quelle est la différence entre la présidence de la République et la direction d'une administration ? Aucune. Dans les deux cas, il s'agit d'une responsabilité exécutive. Alors pourquoi une femme ne pourrait-elle pas diriger le pays si elle peut être à la tête d'une administration ? La colère de cette jeune femme, très courageuse, vous l'aurez constaté, qui est députée à Téhéran et qui est ni plus ni moins la fille cadette du président de la République islamique, eh bien elle s'explique. Ainsi, parce que sa colère, elle est motivée par les traditionalistes iraniens qui projettent d'interdire aux femmes d'être candidates à la magistrature suprême. Alors Faezeh Rafsanjani, elle, met en avant l'ambiguïté de la Constitution, parce que prise au pied de la lettre, celle-ci autorise une femme à briguer ce poste. Pour définir les conditions à remplir pour une candidature, il y a un article, qui est le numéro 115, qui utilise un terme « rajol » qui désigne un homme, mais aussi une personnalité reconnue. Alors les mots et à travers eux l'interprétation des versets coraniques, des lois et traditions islamiques représentent désormais un sérieux enjeu politique qu'ont décidé d'utiliser les femmes. Comme beaucoup d'Iraniennes qui aspirent au progrès, eh bien Faezeh Rafsanjani rejette la lecture figée des préceptes islamiques par les autorités religieuses et politiques et elle revendique avec d'autres femmes une réinterprétation. Ce n'est pas l'islam, mais l'interprétation par le clergé de ces préceptes qui est à l'origine de l'interdiction d'accès des femmes à la magistrature, dit-elle, et de s'en prendre à des textes dénués, eux, de toute ambiguïté, comme par exemple les articles 5, 107, 163 de la Constitution, qui attribuent à l'homme le droit exclusif à la direction religieuse et juridique de la société, ou la loi qui interdit l'accès des femmes à la magistrature. Alors le débat dans ces magazines à grand tirage, eh bien, se font entre autres grâce au travail de leur rédactrice en chef, comme par exemple la rédactrice en chef du magazine féminin Tsanan, qui veut dire « les femmes », je ne suis pas sûre de la prononciation, excusez-moi. Alors Madame Shala Sherkat, la rédactrice en chef de ce magazine féminin, va plus loin et elle dit qu'au nom d'une lecture féministe de l'islam, eh bien, elle exige une réforme de la pensée religieuse. Face aux problèmes qu'affrontent les femmes, dit-elle, un changement radical des lois est nécessaire. Et puisque plusieurs articles du Code civil sont fondés sur la charia, la réinterprétation de celle-ci est indispensable et les femmes doivent participer à cet effort. La rédactrice en chef évoque un intellectuel religieux moderniste qui influe visiblement l'ère post-révolutionnaire que certains ont même surnommé le Luther de l'islam iranien. Eh bien, se référant à ce monsieur, la rédactrice en chef explique « Certains intellectuels religieux ont énormément travaillé sur le sujet, ont ouvert la voie à une évolution de la pensée religieuse et leur réussite aura sans doute des conséquences sur la condition féminine. Nous croyons, quant à nous, dit-elle, que notre compréhension de la religion varie selon chaque époque historique et que les interprétations religieuses doivent absolument en tenir compte. D'autres femmes, comme une femme journaliste, une avocate, une juriste, une sociologue et bien d'autres intellectuels laïcs, sont unanimes à le constater. La révolution islamique a amélioré effectivement le statut des femmes d'origine traditionnelle. Beaucoup de femmes issues de familles traditionnalistes, note l'une d'entre elles, entreprennent des études supérieures et participent à la vie sociale, économique et politique. Elles cherchent à promouvoir leur statut. Pourtant, si l'on s'en tient à la lecture figée de l'islam, les femmes ne doivent pas quitter le foyer sans la permission de leur époux, de leur père. Et si elles parlent à des hommes étrangers à leur famille, il leur faut se poser un caillou sous la langue pour que leur voix ne soit pas entendue. La présence au Parlement de 10 élus islamistes qui parlent aux hommes sans caillou sous la langue montre que malgré les retours en arrière, les femmes ont fait un certain progrès depuis la révolution. En fait, les femmes islamistes qui ne sont plus confinées dans le monde clos des valeurs traditionnelles doivent en partie leur prise de conscience à l'établissement d'une autocratie religieuse et à l'application de la législation religieuse au droit familial, d'où le fameux port obligatoire du voile, la limitation du droit au divorce et la garde des enfants pour les mères divorcées, le retour à un âge minimal du mariage pour les filles fixé à 13 ans puis à 9 ans, la législation de la polygamie, la soumission de la femme à l'autorité aux exigences de son époux, l'interdiction pour les femmes d'accéder aux postes impliquant une faculté de jugement et de décision, etc., etc. Perdant ainsi leurs droits civils, les femmes ont paradoxalement conservé les droits politiques accordés par le Shah en 1963. En effet, peu après l'entrée en vigueur du nouveau code civil, les secteurs publics et privés ont été, entre guillemets, purifiés de leurs membres laïcs qui refusaient de se soumettre aux exigences des islamistes. Et certes, pendant toute la guerre Irak-Iran qui s'est écoulée de 1980 à 88, rappelons-le, les femmes islamistes ont participé à l'effort de guerre, mais l'État, pour lesquels elles étaient uniquement des mères et des épouses, eh bien, n'a pas voulu, bien sûr, reconnaître leur rôle social. Progressivement, nombre de ces femmes, donc islamistes engagées dans la révolution, ont, au début de la révolution, participé à la lutte contre les laïcs et ont réalisé que ces régressions, finalement, visaient toutes les femmes, y compris elles, quelles que soient leurs convictions. Alors, devenues actrices de la révolution, ces militantes se sont engagées dans le combat contre la ségrégation sexuelle, finalement. Bien qu'elles préfèrent garder l'anonymat, une de ces femmes, qui se dit féministe islamiste, je ne sais pas si on peut associer les deux mots, ça c'est note de la lectrice, eh bien, elle, une de ces femmes qui se dit féministe islamiste, parle de sa prise de conscience. Elle dit « Les droits des femmes ont subi des reculs et même les femmes révolutionnaires, islamistes, ont été écartées de la sphère publique. Les autorités n'avaient besoin de nous que pour manifester dans la rue, mais une fois la révolution achevée, elles voulaient nous faire rentrer au foyer. J'ai réalisé alors que l'activité sociale révolutionnaire perdait son sens quand les femmes perdaient leurs droits. C'est ainsi que j'ai commencé à défendre les droits des femmes. » Avec la fin d'une guerre rendue responsable de tous les maux en Iran, eh bien une nouvelle période dite de reconstruction a commencé. La réalité économique et sociale et démographique a contraint l'État iranien à modifier certaines de ses orientations. Il lui a fallu, par exemple, travailler à réduire le taux de natalité, un des plus élevés du monde, pour faire face à la crise économique. Il n'avait pas les moyens, plus les moyens, de subvenir aux besoins de la jeune génération née sous le régime islamiste. Et en dépit de la tradition nataliste de l'islam et du prestige associé dans la culture iranienne au nombre élevé d'enfants par famille, eh bien, le planning familial a été remis en vigueur dès 1988. Des campagnes d'information encouragent les jeunes couples à limiter à deux le nombre d'enfants. De même, la fin de la guerre avec l'Irak a entraîné un affaiblissement des valeurs d'abnégation et des dévotions qu'elles avaient imposées et donc favorisant ainsi l'expression de certaines revendications. Par exemple, sous la pression de la société civile, le gouvernement autorise une relative liberté de presse dont les femmes islamistes modernistes ont profité pour publier des magazines qui se faisaient l'écho de leur mécontentement auprès de la population féminine. Alors au-delà des divergences, une solidarité de sexe se dessine petit à petit entre les femmes islamistes et les laïcs, ouvrant du même coup des possibilités de collaboration.